Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme. Eh bien, nous allons aborder un autre thème. Nous allons parler de l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles. Professeur Corneille Ewango, écologiste, est notre invité. Professeur, bonjour. Bonjour, professeur Corneille Ewango.
Bonjour, Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également en ligne Hervé Moukoulou, journaliste d'investigation. Hervé, bonjour.
Bonjour, Okapi, et bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles. Composez le 099-706-9941. 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. C'est la deuxième partie de ce programme. Nous allons parler de l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles. Les conflits armés au nord et au sud Kivu et en Ituri ont des incidences négatives sur l'environnement et les ressources naturelles selon nos sources. Les récoltes sont incendiées, les puits pollués, les sols empoisonnés et les animaux tués sauvagement. Ces conflits rendent les populations vulnérables parce qu'elles sont moins outillées pour faire face aux dégâts subis par l'environnement et au ralentissement du développement. Alors quel est l'impact, comment évaluer, quel est l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles? Eh bien, nous allons en discuter avec nos invités. Professeur Corneille Ewango, vous êtes écologiste. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Alors, professeur, dites-nous, ces conflits, quel impact ces conflits armés ont sur l'environnement et sur les ressources naturelles? On a cité par exemple les cas de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu.
Merci bien, monsieur le journaliste. Quand on parle des conflits armés et leur impact sur les ressources naturelles, j'aimerais qu'on puisse les situer dans trois axes. Il y a d'abord les ressources agricoles. Il y a les ressources minières et les ressources naturelles renouvelables. Et quand vous voyez dans le contexte des conflits actuels, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, chaque région ou chaque partie du pays qui est affectée à sa propre, à ses réalités. Et il y a d'autres qui se recoupent. Si vous êtes dans l'Ituri, par exemple, c'est mélangé. Donc, vous avez de l'impact sur les ressources agricoles, d'autant plus que ça fait partie de, dans l'ensemble, ce que moi je qualifie comme la politique économique de la guerre. Donc, le conflit armé est alimenté par les ressources naturelles de trois types, agricoles, minérales et naturelles. Ça commence par ce qui est plus important. Et on voit que ce sont les ressources minières parce que c'est soutenu par les multinationales. Mais une fois, ceux qui font la guerre, qui sont sur terrain, ils doivent manger. Ceux qu'ils font, ils ne font pas l'agriculture parce qu'ils passent tout leur temps dans les stratégies de guerre. Ils vont alors s'attaquer aux ressources agricoles, donc aux champs des paysans. Et là, ils vont détruire. Ils en font sienne les récoltes. Et ils en font sienne l'élevage. Dans l'Ituri, on nous rapporte à tout moment que autant de têtes de bétail ont été tuées et emportées par les rebelles. Et là, il y a les rebelles que nous appelons comme des conflits classiques, mais il y a aussi tous ces groupes armés qui abondent dans les différents coins du pays et qui se nourrissent des ressources des pauvres habitants et qui se font qu'ils ne peuvent plus s'adonner à l'agriculture à cause de l'insécurité. Et eux aussi ne peuvent pas se nourrir parce qu'ils ne savent pas se ravitailler formellement. Alors, ils s'attaquent aux ressources agricoles des paysans. De l'autre côté, ils inféodent des zones minières. Les zones minières deviennent des sources de revenus pour ce que j'appelle la politique économique de la guerre. Donc, ils n'ont pas de moyens pour se ravitailler en munitions et en armes. On doit se demander comment les groupes, les milices peuvent avoir un armement sophistiqué plus que l'armée légale. Quelque part, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? C'est simple à demander ou c'est simple à ne pas vouloir ne pas voir. C'est clair qu'ils extraient des minerais, ils occupent des zones minières, mais on doit se demander qui sont les acheteurs. Parce que il n'y a pas longtemps, entre les deux guerres, on a parlé des minerais de sang. Mais ces minerais de sang n'ont pas fini. Mais pourquoi les multinationales ou la communauté internationale ferme les yeux à ces minerais de sang qui n'ont pas fini et qui continuent à couler le sang? Ça, c'est aussi une partie.
Et on parle même des téléphones qui sont fabriqués avec des matières qui proviennent de la RDC, du sang des Congolais.
Effectivement, le coltan, le Congo, très béni, a les gisements les plus riches et le plus producteur de ces minéraux de coltan qui fait les téléphones. Mais on ne se demande pas, à un temps fort de la guerre, comment ces minéraux, il y a même certains pays voisins qui n'ont pas une seule graine de ces minéraux, qui deviennent des grands producteurs, des grands exportateurs de ces minéraux, mais ils sont achetés et là, la communauté internationale n'a pas les yeux pour voir et pour dire développer le contexte des minéraux de sang, mais parce qu'ils en ont besoin. C'est comme ça que je parlais. Il y a dans les aspects miniers, c'est alimenté par les multinationaux qui ont besoin de ces minéraux et qui veulent en pérenniser et en acquérir par des moyens qui ne sont pas honnêtes. Donc, ça continue, la guerre continue, on exploite ces minéraux, on les exporte, mais là, il n'y a pas tous ces mécanismes de contrôle pour dire que ce sont des minéraux de sang et qu'on ne peut pas les acheter parce que ça fait l'économie de la guerre et ça fait le bénéfice de ceux qui entretiennent la guerre. Donc, d'un côté, il y a un lien entre l'armement des groupes de milices qui ne sortent pas, qui ne sont pas limitrophes à un pays, mais comment ils sont au milieu de la forêt, ils peuvent avoir des armes. Donc, on peut conclure, voir clairement qu'il y a un lien entre la vente de ces minéraux et l'alimentation en armement et en munitions. Et il y a de l'autre côté aussi les ressources naturelles non renouvelables. Donc, il y a la faune, il y a des espèces d'arbres, les bois précieux qui sont en train d'être exploités illicitement par ceux qui occupent une portion d'une zone quelconque. Donc, ils se mettent à abattre des animaux, et c'est le cas par exemple dans le parc national de Virunga, qui est le premier parc africain créé en 1923 et dont on connaît bien le vertige sur la biodiversité et la conservation. Mais c'est occupé pendant plus de 30 ans, personne n'en parle. Et si vous lisez bien les news, vous suivez les news, chaque semaine, il y a à l'est du pays, dans les frontières surtout avec l'Ouganda, où on est en train de saisir des cargaisons de pointes d'ivoire qui sortent de cette partie et probablement de la forêt de l'Ituri et du parc national de Virunga. Conserve Congo qui fait la lutte contre la violence, les crimes animaux. On est en train de saisir des cargaisons de pointes d'ivoire, des écailles de pangolais, de bébés chimpanzés qui traversent pour aller vers le marché où ceux qui le vendent, ils ont des connexions. Donc tout ça, ça fragilise l'environnement. Et quand on parle des minéraux, l'exploitation pendant la période de la guerre est si rapide qu'on utilise des méthodes qui ne sont pas écologiques, qui ne sont pas environnementales. Les conséquences sont qu'on ne sait pas contrôler le déversement de toutes ces eaux et alors qu'on utilise des métaux lourdes des matières chimiques qui polluent l'eau. Il y a parfois des cours d'eau, non seulement des puits, mais des cours d'eau qui sont pollués et empoisonnés à cause de cette exploitation illicite et rapide des minéraux et qui empoisonnent alors l'environnement, qui empoisonnent la terre, le sol et ainsi de suite. Et on voit encore, je rentre dans l'Ituri parce qu'on ne voit pas cet aspect. Par exemple, le mûrissement de cacao correspond au mouvement aux insurrections armées qui font que les agriculteurs vont abandonner leurs champs, mais ce cacao est récolté par des groupes armés et ça traverse dans des frontières, mais on n'en parle pas, on ne voit que l'impact de la guerre sur le minerai humain, ça affecte grandement aussi les ressources dans l'ensemble.
Bien, quel est l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles? Hervé Moukoulou, vous êtes journaliste d'investigation et vous êtes l'un des auteurs de l'enquête journalistique sur l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées de la RDC. Alors dites-nous, quel était l'objectif de ces investigations et quels sont les résultats? Hervé Moukoulou.
Oui, je vous remercie d'abord cette intervention du professeur Wango et je vais partir d'une phrase que notre professeur a toujours prononcée. En RDC, la guerre, quand, dès qu'elle commence, elle se déclenche. Alors, c'est ça, la guerre a une très grande incidence sur les ressources naturelles et les tableaux les plus patents qui existent, c'est le sang du Rwanda. L'espace Virunga, avec ses plusieurs parcs de la tête, sert de garde-manger et d'un espace de business pour tous les groupes armés qui sont dans la région. En effet, si vous allez sur le site de ITIS, c'est un centre de ressources, il vous fait la cartographie des groupes armés à l'est de la RDC, et vous allez constater que beaucoup d'engrais sont concentrés dans cette Virunga. Qui leur sert des contraintes, donc principalement certains groupes comme les EDF, les FDLR, les Raoul Amoutombo, les Ressorts. Et ainsi, les ressources naturelles qui se retrouvent dans cet espace deviennent leur point de commerce. Parce que vous allez vous rendre compte déjà que partant de certaines choses simples comme le bois énergie, les Virunga perdent régulièrement presque 8% de l'espace forestier. Parce que c'est le bois de l'espace du Rwanda qui sert de charbon de bois pour les îles du Kivu. Et c'est déjà un business de plus de 1 million de dollars le mois. Et même dans certains documents, il est dit que le Rwanda, c'est un espace de business illégal d'autour de 200 millions de dollars le mois. Alors vous comprenez que quel est ce business? Ce business, c'est l'exploitation minière dans et autour de Virunga. Et l'espace naturel, là, c'est un bien couloir libre. Parce que vous le savez que la RDC, le Rwanda et le Burundi, l'Ouganda, on partage 300 km à la frontière avec trois espaces protégés à la frontière. Ainsi, les groupes armés entrent et ressortent de part et d'autre sans être gênés. Donc, le parc Virunga, ça devient une zone libre, quoi. Une zone de trafic libre et illicite. Ce qui fait que les populations riveraines ne peuvent plus utiliser et avoir des revenus légaux des ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles, oui, on doit les protéger. Certaines, comme les ressources animales du parc de Virunga. Il y a des espèces animales qui sont sur le point de disparaître, doivent être protégées, mais en contrepartie, les populations doivent voir des projets et consorts qui viennent dans ce cadre de la protection-là. Mais parce qu'il y a la guerre partout, on ne sait pas maintenir des projets de développement. C'est ainsi qu'on rentre dans un cercle vicieux. Pour le seulement, les ressources naturelles sont exploitées illégalement, exportées illégalement. Et nous, on perd, malheureusement, les populations riveraines, des espaces du Rwanda, sont aussi dans la danse parce qu'il n'y a pas autre moyen d'en bénéficier. Elles sont aussi acteurs de cette exploitation illégale. Et on entre dans un espace où personne ne bénéficie clairement de nos ressources naturelles, qu'elles soient minières, forestières ou animalières. Donc on est dans des cercles vicieux dans lesquels jusque-là il n'y a pas encore de mécanismes propres pouvant nous permettre de faire une très bonne gestion de toutes ces ressources que nous avons.
Bien, c'est plutôt Jody Kachama. On va accueillir Godé Kidiongo depuis Kikuit. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Kachama. Bonjour à l'invité. Aux deux invités.
Quelle est votre préoccupation?
ma préoccupation est celle-ci, monsieur le journaliste. Ici, dans la ville de Kipiti, nous accueillons donc la population de Kwamuntu qui a fait donc des massacres des peuples Teke et Yaka. Vraiment, ils sont inondés dans la ville de Kipiti et dans la ville de Bandundu. Pas moyen de vivre. Les autres ont essayé de retourner là donc à Kwamuntu. Vraiment, pas moyen. On a vu leurs bêtes saccadées, leurs sang saccadés par les Mumbondo. Vraiment, on se retrouve même pas, on n'arrive même pas à se retrouver encore. Je ne sais pas, ils ont perdu même l'élevage. Même l'élevage des troupeaux. On a perdu, les champs sont saccadés. Ils vont. Je voulais demander un peu à l'invité. Est-ce que l'État congolais n'a pas les moyens de base perdu là? De créer un GD dans de Kwamuntu pour situer les biens perdus, les bêtes perdues. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, le gouvernement? Puisque nous voyons ici, on a les policiers qui étaient là pour aller donner du calme dans ces secteurs-là. Ils sont dans le pont Kwango, ils commencent à faire les tracasseries, de demander des téléphones pour dire, soit en disant que non, nous ne pouvons pas combattre au Teke Yaka. Vous, je dois vous tuer. Donne-le, les téléphones Android. Fais ça. Donc, les tripotages, les exorbitants. Quel est leur travail, les policiers? Quel est leur travail? C'est pour.
Merci.
Pourquoi la confusion? Les téléphones en cours de route, c'est pour Kwamuntu.
Voilà. D'accord. Merci, Godé Kidiongo. Augustin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation, Augustin?
Bon, vous pouvez un peu me rappeler le sujet.
Vous voulez que je vous rappelle le sujet? Nous parlons de l'impact des conflits armés. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas le sujet, vous n'allez pas poser aussi questions. Non. Merci de nous rappeler, Augustin. Alors, je reviens à vous, professeur Corneille. Vous avez suivi le travail qui a été fait par Hervé Mukulu et les autres qui nous disent que c'est au niveau beaucoup plus de l'espace Virunga qu'il y a beaucoup plein des groupes armés. Et comme vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de l'économie, de la guerre. C'est ça qui fait fonctionner ces groupes, professeur.
Effectivement, oui, c'est un cas excellent que j'ai épinglé aussi, le cas de Virunga qui dépasse les bornes, les espérances, parce que c'est le plus grand parc et qui a plus d'une cinquantaine de groupes armés et qui ne vivent que de ses ressources, aussi bien minières que naturelles. Mais il n'y a pas que Virunga, parce que le Virunga, si c'est un cas patent, parce que on peut enregistrer près de plus de 10 hectares de forêt le mois qui est converti par des activités de groupes armés qui soit exploitent le bois, soit coupent ce bois pour en faire de la braise. Donc vous pouvez demander aux gens de Goma combien coûte un sac de braise qui vient du parc, facilement plus de $50. Et ça fait ce que j'ai dit, l'économie de la guerre. Donc les gens sont là-bas, quand ils ne se battent pas, on croit qu'on est en paix, mais ils sont en train d'exploiter. Les uns exploitent les minerais, les autres sont dans les ressources naturelles comme le bois et ils font aussi la carbonisation. Et il y a aussi l'autre cas qu'on semble un peu oublier, que je n'aimerais pas qu'on oublie, c'est la réserve de faune à Okapi. La réserve de faune à Okapi, à ma connaissance, avait, est la seule qui regorgerait plus d'éléphants de forêt dans toutes nos aires protégées. Et c'est l'une des 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'Institut congolais pour la conservation de la nature a presque perdu le contrôle de cette réserve. Pourquoi? À cause des activités des groupes armés. Nous avons pour cette petite réserve plus de 10 groupes armés qui sont en train d'opérer partout et ils sont dans l'exploitation minière. Mais quand ils sont dans l'exploitation minière, comprenez que le braconnage pour l'éléphant, c'est comme une activité permise. C'est comme quelqu'un...
Allô, professeur?
Il va au changement. Un impact sur la faune, non seulement des éléphants, mais toute la faune dans l'ensemble. La viande est vendue comme des cacahuètes dans le marché, dans les environs, parce que ça vient des zones qui sont contrôlées. Et les éco-gardes, l'ICCN, ne peut plus aller même à
plus de 30 kilomètres du quartier général. Et ça, comme impact aussi, c'est un site qui était voué à la recherche scientifique pour les forêts de bassin du Congo. Si on parle aujourd'hui des forêts de bassin du Congo, les Congolais doivent savoir que les recherches sont venues de la forêt de l'Ituri, de la région.
Allô, professeur, vous êtes là?
Les changements climatiques de 30 ans.
Et on n'a pas accès à cause de ça. Ça fait l'économie de la guerre. Donc, les groupes armés sont en train d'exploiter non seulement les minerais, mais aussi la faune. Donc, les deux cas que nous connaissons bien, l'espace Virunga et l'espace Ituri, en particulier la réserve de faune à Okapi, donc ça a des impacts sérieux sur les ressources naturelles, mais aussi sur la faune dans ces aires protégées.
On va accueillir Ismaël de Lubumbashi et Roger Marcel de Kinshasa. Quel est l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles? Ismaël de Lubumbashi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup, Jody Tati Mapoukou. Et Jody, la question, c'est savoir le problème aujourd'hui, c'est les politiques.
Oui.
Parce que si nous constatons du côté Virunga, tous ceux qui veulent s'enrichir, ils achètent des armes. Il cotise les gens, et bien il le fait en train dans la forêt, et bien pour tuer les gens et exploiter les minéraux sans problème. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut faire le parallélisme entre le minéraux et les exploitants minéraux et la population qui est en train de subir la peine aujourd'hui. Mais si la net est ainsi, depuis que cette guerre a commencé et les gens sont éliminés, mais vous avez besoin des minéraux. Mais pourquoi vous tuez la population? Et la méthode conservative que l'invité peut donner aux gens ou au gouvernement comme des pistes de solutions. Laquelle, par exemple? Parce que on est fatigué d'entendre que les minéraux sont exploités. Ceux qui vivent sur les minéraux, ils n'en bénéficient rien. Vous voyez même le parc Virunga, c'est un parc qui est inscrit sur le patrimoine mondial. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en sorte à ce que ces gens-là, les banditismes, l'exploitation illicite, puissent prendre fin? Et jusqu'à quand? Parce que jusque-là, nous avons la guerre qui est menée. Mais les populations qui sont assises sur les minéraux, quelle peut être leur redevance vis-à-vis des minéraux là qu'on est en train d'exploiter? Mais quelles sont à titre de sanctions? Ceux qui exploitent illicitement, et ceux qui tuent les gens pour exploiter les minéraux, quel peut être l'effort s'ils ont pris main dans la poche? Merci beaucoup.
Merci Ismaël de Lubumbashi. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles?
Bonjour M. Zoni et bonjour à notre invité. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. M. Zoni, vous savez, moi je trouve vraiment le cas problème. Notre État congolais a échoué vraiment dans sa mission, parce que c'est l'État congolais qui est censé de protéger les entités territoriales. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à déplorer toujours ces actes-là. Ce sont des choses qui se passent vraiment depuis longtemps. Moi, je pense à ce niveau-là, si quand même l'État congolais pouvait prendre l'effet de mesure, parce que c'est pas vraiment normal. Les Congolais eux-mêmes qui peuvent bénéficier de ces minéraux ne bénéficient pas. Quand vous regardez, comme notre invité vient à peine de le dire, vous allez voir même ces groupes d'armées-là ont quand même des armes vraiment qui sont vraiment plus fortes que l'armée congolaise. On se demande vraiment. Ces gens-là sont financés par qui? Parce que ce n'est pas vraiment normal de trouver vraiment un pays où on a vraiment des richesses. Mais nous, les Congolais, on ne bénéficie pas avec ces richesses-là. L'État congolais pouvait quand même faire un peu quelque chose. Avoir quand même un dirigeant qui viendra quand même imposer quand même. Parce que regardez avec les chefs de l'État au début de son mandat, il avait dit qu'il va faire quand même l'Est pour qu'on pouvait quand même avoir la paix. Mais on a vu avec les 5 ans qui viennent même de s'écouler, on n'a pas vu quelque chose. Je pense que si on pourrait encore arriver le bon moment, on va avoir quand même un dirigeant qui pouvait venir quand même imposer quand même la paix pour à l'Est quand même les choses pouvaient aller avant. Vous avez vu avec le docteur Moukos que qui avait dit devant la communauté internationale que tous les téléphones que vous utilisez, c'est tous les ordinateurs, tous les portables, ça vient de l'Est. Il y a nos compatriotes qui meurent à l'Est. Mais comment on pouvait pas avoir un peu de musique et la communauté internationale pouvait quand même imposer un peu quelque chose à la République démocratique du Congo? Bon, je pense quand même, il y a quand même un regret sur ça, monsieur Jeudi.
Bien, merci. Hervé Moukoulou, votre réaction.
Très patent, parce que on doit partir d'Espagne, et spécialement dans l'espace du Rwanda. Ce n'est pas comme dans le sud du pays. Ici, nous avons des minéraux qui sont utilement exploitables. Nous avons de l'or, on parle de la catégorie de poisson. Ce sont des minéraux que l'on peut exploiter juste avec ses mains, avec une roue, avec des bits. Ce qui est différent de l'espace Katanga où on doit énormément investir dans le cuivre conscient. C'est pourquoi ici, ceux qui ont besoin de ces minéraux illégalement préfèrent investir le minimum dans un groupe armé que d'investir des millions dans une entreprise. Malheureusement, pour leur contraindre, ça devrait venir de notre État, et ce n'est pas le cas, parce que si vous voyez la chaîne d'illégalité de l'exportation de nos minéraux, tout le monde est acteur. Parce que vous allez voir, sur le plan légal, hein, tous les documents sont faits pour que l'on puisse distinguer les minéraux exploités illégalement et celui qui est exploité légalement. Mais les deux prennent le même chemin. Pourquoi? Parce que certains minéraux exploités illégalement ont la couverture des officiers militaires, des hommes politiques, et sont exploités ici. Si on peut commencer même au niveau du puits, au niveau du puits qui exploite, ce sont les habitants de la région. Ils n'ont pas de choix et qui peut-être auraient été employés dans une bonne entreprise, la bonne et du forme, mais elles n'ont pas de choix parce qu'il n'y a rien, elles ne peuvent que créer, elles ne peuvent que créer artisanalement. Et après cela, ce sont les mêmes personnes qui convoient les minéraux avec la complicité au niveau des barrières. Il y a des agents de police et des consorts qui sont facilement corruptibles. Si vous regardez entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, il y a plusieurs pistes où les minéraux passent illégalement avec la bénédiction de certaines autorités. Donc, dans cette question, le nerf de la guerre, qui est des ressources naturelles, l'homme congolais, tout comme ses autorités, tout sont déjà pris. Malheureusement, les citoyens lambda n'ont pas le choix, parce que lui, il est dans une situation qui manger, qui vivent et que sa région est prise en otage par une force négative, ben, il n'a pas d'autre choix que de se mettre aux règles du jeu pour survivre. Et malheureusement, les autorités qui sont amenées parfois ici et qui devraient combattre cette situation, dès qu'elles arrivent sur terrain, elles entrent dans les circuits de l'argent et du. Parce que les chercheurs, les scientifiques que j'ai à interviewer durant cette investigation savent tracer les liens des pratiques illégales des armes du Rwanda en RDC à travers les Virunga. Les autorités savent ça, mais pourquoi? Personne n'a dit pourquoi. Ce sont les vraies questions que l'on doit poser à nos autorités, parce que ces autorités ont failli sur toute la scène. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles sont complices, on ne sait pas. Alors, c'est ça, les vrais défis des ressources naturelles. Je parle principalement de l'espace que nous avons eu à mener cette investigation sur la méditation.
Bien, merci Hervé Moukoulou. On va accueillir Justin Kalabia de Bounia. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles?
Oui, monsieur Jody, en tout cas, les impacts sont nombreux. Hein, et ça me passe aussi à la tête en voyant en tout cas tout ce qui se passe à travers le pays, alors que nous sommes dans une période préélectorale, monsieur Jody. Lorsque nous voyons le parc de Virunga et ainsi de suite, monsieur, je dis pour m'expliquer cela, ça me donne vraiment une peur, parce qu'on ne sait pas l'avenir de ce pays dans les jours à venir. Parce que ça fait plus d'une année que les terroristes M23 occupent en tout cas une place sur. Sur l'étendue du territoire national, monsieur, aujourd'hui. Maintenant, j'ai une question catastrophique. La question est celle de savoir quel est l'impact des conflits armés sur l'environnement et les biodiversités. Merci, monsieur, aujourd'hui, et bonne journée.
Bien. Professeur Corneille Wango, à vous la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Jody et chers auditeurs. L'impact des conflits armés sur la biodiversité, chacun de nous le connaît. Et je rentre encore à l'espace Virunga. Si vous ne le savez pas, Virunga fut un parc qui a été créé et avec les zones lacustres qu'il avait, Virunga avait la plus forte densité des hippopotames au monde. Il avait plus de 30 000 hippopotames dans l'espace Virunga. Les derniers inventaires que nous avons faits dans cet espace-là, on avait pas plus de 5 000 hippopotames. Donc, allez-y comprendre, les 29 500 sont partis où? Et nous avions près de 8 familles de lions. Et les derniers inventaires que nous avons faits, on avait une seule famille qui a survécu de justesse et qui n'avait pas plus de 5 individus. Il a survécu, c'est parce qu'il a développé des stratégies pour aller dans le fond des vallées, alors que c'est un animal de savane. Et ceux qui connaissent encore la belle époque de Virunga, il y avait des densités de population de bifles, des antilopes, qui aujourd'hui on ne les voit pas, mais qui sont, ne sont pas membres de l'épidémie, sont juste destinés à partir par les groupes armés qui en font les recettes dans l'économie de la guerre pour la survie. Et ça a un impact dans l'exploitation illégale des bois. Tous ces bois précieux, les bois d'œuvre qui sont exploités, constituent la biodiversité. Si vous êtes, par exemple, je pars encore dans l'Ituri, la population de l'Ituri ne mange pas les primates. Et la réserve de faune à Okapi avait une forte densité de primates que quand vous faites la route Bunia, venir vers Kisangani, vous n'aviez pas de peine à voir les singes perchés dans des arbres. Aujourd'hui, vous n'en trouvez presque pas. C'est devenu rare. Donc, la biodiversité, surtout faunique, est en train de payer les lourds tributs et les espèces de bois d'œuvre sont en train de payer aussi les lourds tributs parce que toutes ces espèces sont inféodées par les groupes armés. Donc, nous, Congolais, nous devons comprendre que nous ne devons pas faciliter l'économie de cette guerre. Si nos groupes armés, les milices, s'ils prétendent réellement qu'ils défendent la cause de défendre l'intégrité territoriale, ils ne devraient pas être en train de faire ce qu'ils font là, s'attaquer aux populations, s'attaquer à leurs propres ressources, car demain, quand le pays reviendra dans l'intégrité, ils vont vivre encore de quoi. Mais on voit qu'ils pérennisent eux aussi la guerre, car ils en profitent. Donc, l'objectif n'est plus de défendre les populations comme ils le prétendent, c'est la prédation des ressources dans l'illégalité et dans l'irrégularité pendant qu'il n'y a pas la paix. Donc, tout ce que nous devons faire, on peut condamner l'État, mais c'est l'État congolais qui est agressé. C'est le peuple congolais qui est agressé. Comment vous allez vouloir que l'État puisse réglementer là où il a perdu le contrôle? Donc, l'effort de l'État maintenant, c'est de recouvrir son intégrité territoriale. Quand il avait l'intégrité, est-ce qu'il y avait tous ces abus commis dans le parc de Virunga? Est-ce que quand il y avait l'intégrité, il y a eu tous ces abus qui étaient commis dans le parc, dans la réserve de faune à Okapi, par exemple? Le cas de la réserve de faune à Okapi, si on est militant et on veut défendre le pays, on devrait être à l'est, qu'être en forêt, surtout dans des zones minières, en train d'exploiter et prétendre qu'on est en train de défendre l'intégrité territoriale. Donc, nous ne devons pas faciliter cette économie de la guerre, qu'il s'agisse des multinationaux. Nous devons nous désolidariser pour réellement défendre notre pays et bénéficier des ressources que nous pensons que nous n'en bénéficions pas. Un auditeur a parlé de ne pas en bénéficier par les communautés, ainsi de suite. Ce n'est pas comprendre l'exploitation ou la gouvernance des ressources naturelles dans notre pays. Il y a l'exploitation minière industrielle, mais l'État a ouvert aussi une brèche en créant un service d'exploitation minière artisanale qui était réglementé et qui a des statuts et des textes comment on peut opérer sur l'exploitation minière artisanale. De même dans le bois, il y a l'exploitation industrielle, il y a l'exploitation artisanale de bois qui sont régies par les lois du pays et il y a des institutions. Donc, si on peut respecter dans l'état de l'intégrité de la paix, donc il y aura toujours des exploitants artisanaux qui vont alimenter la chaîne de valeur pour l'exploitation artisanale et de même qui vont survivre à côté de l'exploitation industrielle. Mais quand le pays est agressé, Nous devons, sinon, je suis un peu malheureux de voir que tous les intervenants commandent et condamnent l'État, alors ils ne font pas l'analyse. Je leur rétorque la question, quelle est pour eux la cause de l'invasion de notre pays, la cause de la guerre qui nous est imposée? C'est à cause de ces ressources abondantes que nous avons dans les sous-sols et dans l'espace forestier congolaise. C'est à cause
alors,
de
professeur,
ces ressources qu'on nous en veut.
Oui,
donc, on doit impacter le pays,
oui.
Le gouvernement. Mais quelle est la cause de la guerre? C'est à cause de ces ressources naturelles. Et quelle est la solution? Nous devons nous défendre pour défendre l'intégrité de notre territoire et jouir de nos ressources naturelles.
Donc, professeur, on peut affirmer que l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles, cet impact est vraiment très considérable.
Très considérable et irréparable. Comment vous allez réparer les dommages causés au parc national de Virunga, par exemple? Comment vous allez... C'est plus de 300 000 hectares de forêt du parc de Virunga qui sont perdus depuis ces 30 ans. Et c'est irréversible, c'est en train de continuer. Et c'est avec elle la faune et tout ce qui... fait l'environnement de l'espace Virunga ou de nos aires protégées. Et si vous voyez par exemple un peu plus au nord, le parc national de Garamba, on a perdu à l'espace de moins de 30 ans, on avait perdu tous les rhinocéros blancs du nord. Mais c'est maintenant qu'on vient de les introduire. On ne doit pas être fier parce que ce ne sont pas des espèces qui étaient naturelles de notre environnement. Ça vient de quelque part de l'Afrique du Sud. Maintenant, on se réjouit que, bon, les rhinocéros se sont encore revenus. Mais non, non, ils ne sont pas revenus, on les a introduits. Et de même, on parle de Virunga, on parle de gorilles qu'il faut protéger, mais même la communauté internationale semble oublier que les gorilles ne sont que dans notre pays que Virunga, les gorilles de montagne. Mais quand on alimente la guerre pour avoir les minerais qu'ils veulent là, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour les avoir légalement et officiellement? Sinon, l'État congolais est pourquoi? Pourquoi on ne peut pas coopérer avec l'État congolais que d'alimenter le conflit qui coûte plus de 12 millions de morts maintenant? Donc, ça vaut mieux avoir le minerai de sang et le vendre et nous le revendre encore en outillant. Donc, l'impact est énorme et irréparable sur le plan de la biodiversité que nous subissons de la guerre qui nous est imposée.
Bien, nous parlons de l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles avec le professeur Corneille Wango, écologiste, et Hervé Moukoulou, journaliste d'investigation. Des questions et préoccupations, appelez au 099 706 99 41. 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quel est l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles? Hervé Moukoulou, vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes l'un des auteurs de l'enquête journalistique sur l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées de la RDC. Alors, à l'issue de cette enquête, est-ce qu'il y a eu des recommandations ou des propositions qui ont été faites pour trouver des solutions face à ce problème?
À l'issue de cette enquête, nous avons... Il y a certaines actions qui sont mises en place par l'UCTM et les gestionnaires de Virunga. Malheureusement, toutes ces actions dépendent aussi de l'état de la stabilité, la paix d'abord. La priorité serait que le gouvernement congolais, à travers son armée, reprenne le contrôle de ce territoire dans tout cet espace-là. Malheureusement, ce qui se passe sur le terrain, c'est parfois... certains de ces mêmes officiers qui sont investis dans le trafic du bois, dans le trafic du cacao, dans le trafic des minéraux. Et c'est ça les grands défis. Pour la restauration de l'espace Virunga, il y a des projets qui sont menés par Virunga Alliance, disons la mise en place des centrales hydroélectriques autour du parc de Virunga, parce que le bois reste la principale énergie, source d'énergie dans nos ménages aussi. Si on arrivait à changer cela avec l'énergie hydroélectrique,
ça pourrait les aider à ne plus exploiter ces ressources naturelles du Virunga. Malheureusement, juste là, les centrales mises à place par ces centrales du Virunga ou des projets comme la fédération du MK à Boutembo et Beni, ça reste encore trop cher et insuffisant pour répondre à la demande. Il y a certains projets comme l'introduction de nouvelles espèces biologiques qui mangent le blé dans le hauteur de l'Ubero, parce que les temps, le blé, c'était une culture très profondément dans la région et qui a disparu. On essaie de remettre cette culture-là pour équiper la population. Il y a des projets du genre la limitation du parc, parce que les frontières entre les villages, les populations et les parcs sont encore méconnus, parce que bon, en fait, les éléphants, les gorilles sont menacés de disparition. Mais quand un éléphant entre dans un champ de privé à côté du parc, ce sont des dommages. Si c'est une saison blanche, cette famille-là va se dire. Quand un éléphant entre dans un village, il y a toujours des dégâts. Donc, ce sont ces genres de projets et la limitation qu'on sort qui sont menés pour essayer de restaurer les grands gouvernements. Sur une échelle de 10, on peut dire qu'à ce moment, les efforts sont encore à moins de 1%. Le défi est tellement grand et que cela demande une plus grande synergie. Mais la base serait que le gouvernement se restaure la paix sur tout son territoire. Malheureusement, elle est agressée pour ses ressources naturelles, comme le dit Professeur de Wango. Et malheureusement, certains officiers que le gouvernement envoie ici pour combattre ceux qui agressent la RDC pour les ressources naturelles, quand ils arrivent, quand ils arrivent sur le terrain, ils sont aussi mis dans le circuit et beaucoup sont embêtés parfois dans ce genre de trafic de bois et de minerais. Voilà les complots de ce sont présentés. Mais les initiatives-là, elles ne demandent qu'une sorte de stabilité pour qu'elles naissent. Parce que une mini-entreprise de développement a pas un père. S'il n'y a pas la stabilité, si la population de ce village va fuir à chaque fois qu'il y a typiquement de base. Voilà, c'est ça que les questions auxquelles on parle suite à la prédation des ressources de la nature.
D'accord, merci Hervé Moukoulou. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation et des auteurs de l'enquête journalistique sur l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées de la RDC, et particulièrement dans l'espace Virunga. Merci, excellente journée et à la prochaine. Bien, on va accueillir notre auditeur qui pour participer à cette émission. Il s'agit de Bertin qui est à Kinshasa. Bonjour Bertin.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour ?
Le sujet du jour, c'est un sujet très important, surtout en ma qualité d'environnementaliste, pour faire les liens entre les conflits armés qui règnent dans les aires protégées actuellement et la défaillance dans la protection de l'environnement en général, mais en particulier de la biodiversité qui règne dans ces aires protégées, etc. Donc voilà un peu autour de quoi je peux dire quelque chose.
Allez-y.
Oui, justement, c'est comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, la protection de la biodiversité que nous voulons actuellement, partout dans le monde, se passe dans des conditions d'inquiétude. Une zone menacée par la guerre ne peut pas avoir des conditions optimales pour favoriser la conservation de la nature. Les espèces qui sont là, animales et végétales, dans les conflits armés, sont toujours détruites, abattues, et cela au détriment de la conservation. D'ailleurs, actuellement, l'approche la plus utilisée dans la conservation, c'est une approche communautaire. Donc, on suppose que les communautés ayant participé depuis des années à protéger cette biodiversité a à cœur la notion de la voie prospère, la voie stable, pour aussi l'équilibre entre cette communauté et cette biodiversité, parce que c'est de là qu'on puise la nourriture, etc. Mais lorsque cette communauté est menacée par des conflits armés, elle est tuée, elle fuit, les rebelles qui viennent s'installer dans un protégé n'ont aucune notion de conservation. Ils perturbent les écosystèmes, ils perturbent les habitats de la biodiversité, ils détruisent cette biodiversité, par conséquent, les écosystèmes deviennent vulnérables. Ainsi, en tant qu'environnementaliste, nous condamnons ces actions et nous pensons que l'État congolais devrait faire tout ce qu'il y a à son pouvoir, justement, pour mettre fin à ces conflits armés dans les aires protégées.
Merci Bertin de Kinshasa. Professeur Corneille Ewango.
Oui, merci bien. Je salue bien l'auditeur qui est aussi environnementaliste. Il est clair que lorsque une zone est inféodée par des conflits armés, les ressources naturelles vont en subir et il ne peut y avoir une conservation en termes de protection pendant que la zone n'a pas de stabilité. Ça, nous n'allons pas blâmer les communautés locales ou les communautés riveraines. Elles ne sont en rien le moteur de prédation de ces ressources naturelles parce qu'elles sont tout le temps en déplacement. Mais c'est l'économie de la guerre, comme je l'ai dit. Donc, il y a d'une part la guerre classique et il y a le développement de tous ces groupes armés qui se développent non pas pour défendre l'intégrité du pays, mais pour tirer profit des ressources naturelles et minérales qui sont dans notre pays. Alors, ça crée un environnement qui devient moins propice à la conservation. Et les communautés locales qui subissent ou qui étaient les gardiens de ces zones-là vont aussi se déplacer. Ceux qui viennent, ils viennent à cause de ces ressources-là. Ce que j'ai dit, c'est remettre en cause la cause de la guerre que subit le Congo. C'est à cause de ces ressources naturelles. Donc, ceux qui viennent, ils vont les exploiter parce qu'ils viennent pour ça et pour se maintenir, pour maintenir leur effort de guerre, c'est exploiter ces ressources naturelles. Donc, la solution, comme l'a dit monsieur le journaliste d'investigation, oui, il y a des solutions qu'on peut envisager, mais on ne va pas les envisager en état de guerre. Même la fondation Virunga, qui a développé la centrale pour alimenter en énergie, elle est elle-même menacée. Qu'est-ce qu'elle peut faire en plus pour alimenter les différents villages qui traversent, dont les courants traversent dans Virunga? Donc, tu vois que c'est un problème de stabilité. L'effort que devra faire le gouvernement, c'est d'abord ce qu'il est en train de faire, c'est accélérer, c'est recouvrir l'intégrité territoriale. Quand il y a l'intégrité territoriale, il y a la paix, alors il y a le contrôle absolu par le gouvernement de ses ressources naturelles. Et nul n'ignore que nous avons différents ministères. Nous avons le ministère de l'Environnement. Il a des structures à la fois techniques et administratives pour la gestion, pour l'administration de nos ressources naturelles et de nos aires protégées. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire en état de guerre quand Virunga est, par exemple, occupé par plus de 300 groupes armés? Donc l'ICCN se réduit à la ville de Goma. Donc il faut une intégrité territoriale, la paix, pour que l'État puisse jouer son rôle. Donc les communautés ne sont que victimes comme toutes les ressources naturelles et minérales de sous-sol.
Mmh. Professeur, un instant, on va accueillir un dernier auditeur.
Je me redire que aussi du côté gouvernemental, c'est le comportement de nos vaillants combattants FRDC et la police nationale. Parce que ce que les populations ont décrié, tous les intervenants ont décrié, nous le vivons, ça se passe bien sur terrain. Si nous allions sur terrain au front réellement pour combattre, pour récupérer l'intégrité territoriale, peut-être on l'aurait fait. Mais quand on fait de la guerre une opportunité de s'enrichir, c'est là où on y arrive. Parce que ce sont eux-mêmes encore qui exploitaient et le langage est courant. Vous allez vouloir que nous, on meure de faim à cause d'un éléphant qu'on a tué. Mais vous n'avez pas tué un. S'il y a 10 000 militaires au front et chacun tue un éléphant, on aura tué 10 000. Donc, ils doivent comprendre qu'ils sont au front pour protéger les populations et leurs ressources. Parmi ces ressources, il y a les ressources naturelles, il y a aussi les ressources minérales que, en temps de non-état de guerre, l'État doit en bénéficier, exploiter pour le bonheur de tout le monde. Mais quand ils se comportent eux-mêmes aussi comme des envahisseurs et agir de la même manière, là, il n'y a plus un État, il n'y a plus quelqu'un qui protège ou qui lutte pour la sauvegarde de ces ressources naturelles. Donc, les solutions à envisager ne peuvent venir qu'après que nous ayons acquis la stabilité. En état de guerre, on est à tout moment qu'en état de légitime défense ou en état défensif. Donc, à cet état-là, rien ne peut marcher même du côté de la population, même du côté du gouvernement. L'effort que doit faire le gouvernement, c'est recouvrir son intégrité territoriale et le reste pourra suivre.
Bien, merci professeur Corneille Ouango, écologiste, et nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci bien Jody Kachama, merci bien chers auditeurs et merci Radio Okapi.